On poursuit avec un autre gros dossier, celui du survol de la
région. Dossier chaud, la campagne des vols de nuit, les bombes.
Aussi loin que remontent mes souvenirs de téléspectateurs, le survol de Bruxelles a toujours fait les titres du JT.
La route du canal a des allures d'autoroute aérienne. Les riverains ne s'entendent plus.
C'est sans doute le dossier politique le plus complexe de ces 15 dernières années, le plus pourri aussi.
Le fédéral a envoyé une lettre à la région, une réaction totalement insatisfaisante pour la ministre bruxelloise de l'Environnement.
Et je dirais qu'ici, j'ai quelques mesures techniques qui se déploieront peut-être à partir de 2020 qui peuvent tenir sur un post-it.
Avec, c'est vrai, de longues périodes d'hibernation suivies d'intenses moments de crispation, vous savez, ces séquences faites de déclarations laconiques entre deux portes.
Une belle brochette de ministre engluée dans l'embarras.
Madame Onkelinx, une décision de justice qui arrive au plus mauvais moment, finalement.
Ça va pas être simple, il faudrait presque une baguette magique pour régler le problème.
J'espère que l'on va pouvoir maintenant négocier avec les régions et trouver une solution.
Mais on n'a rien trouvé de spécialement magique en réunion.
Non, on n'a toujours pas trouvé de baguette magique.
Je m'appelle Jérôme Durand, je suis journaliste à la RTBF. Vous écoutez Sous les avions Bruxelles, le podcast qui vous parle de la manière dont l'État belge organise le survol de sa capitale. Épisode 3, un dossier pourri, à qui la faute ? Parfois même, le dossier a des petits airs de Dallas, avec ses stratégies, ses agendas cachés, ses coups bas, ses trahisons.
Je crois que le fédéral est au balcon. Hein.
Après une heure d'entrevue, c'est toujours très tendu. Pour preuve ici, on manie l'ironie sur les normes de bruit.
Pas parler trop haut, hein, parce que vous pouvez être en infraction.
Pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de ministres de la mobilité ont temporisé, joué la montre.
Le nouveau ministre de la mobilité demande un peu de temps pour trancher.
Je suis en train d'analyser. Moi, je ne vais pas promettre qu'il n'y aura plus de bruit parce que je serais malhonnête de promettre ça.
Car pour ceux qui s'y sont frottés, ça s'est souvent mal terminé.
Cet accord est un accord équilibré.
Prenez Melchior Wathelet. En 2014, son plan, inspiré de son prédécesseur flamand Étienne Scoop.
Je l'ai toujours dit très calmement, très sereinement, j'exécuterai la totalité de l'accord, rien que l'accord, mais tout l'accord.
Son plan est critiqué de toutes parts.
Des pétitions voient le jour pour contester le nouveau plan fédéral de répartition de survol.
Duel musclé ce matin sur nos antennes entre Evelyne Uytebroek et Melchior Wathelet. La ministre bruxelloise de l'Environnement réclame, elle, un moratoire.
Son plan sera rapidement largement démantelé, mais Melchior Wathelet est marqué. Quelques mois plus tard, il quitte la politique.
Le secrétaire d'État, lui, est au pied du mur. À 15 jours des élections, il est condamné à déposer les armes.
J'aurais aimé l'entendre aujourd'hui, mais il a décliné ma demande d'interview. Pour lui, le sujet est encore sensible. Tout ce que je pourrais dire dans ce dossier sera retenu contre moi. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Autre victime du dossier qui a, elle, accepté de me livrer sa vision des coulisses.
Je me souviens quand même de pas mal de partenaires qui ont dit à l'époque « Bon voilà, maintenant qu'elle est partie, ça va aller tout seul. » Bon.
C'est Isabelle Durand.
Le Conseil des ministres n'est pas terminé. Pourtant, Isabelle Durand et Olivier Deleuze apparaissent sur les marches du 16 totalement écœurés. Ils s'en vont.
On ne travaille pas quand on vous coupe un bras ou quand on vous coupe une jambe. Il est un peu difficile de travailler à cloche-pied.
Nous sommes en 2003. Écolo participe pour la première fois à un gouvernement fédéral. Privée de ses compétences mobilité et transport, la ministre n'a d'autre choix que de démissionner. Motif du conflit, elle a refusé de valider dans l'urgence une nouvelle route survolant le canal de Bruxelles, la route Onkelinx, du nom de celle qui va lui succéder.
Isabelle Durand, Laurette Onkelinx, bonsoir. Vous êtes toutes les deux à côté, en tout cas ce soir, sur ce plateau de télévision.
Une passation de pouvoir qu'Isabelle Durand apprend un soir alors qu'elle est en direct sur le plateau du JT.
Donc, comme Madame Onkelinx a vos compétences, est-ce que vous êtes toujours ministre ou pas ?
J'en tirerai donc la conclusion quand ça me sera notifié.
Avec Laurette Onkelinx à ses côtés, ambiance.
Laurette Onkelinx, vous avez donc les compétences d'Isabelle Durand en ce qui concerne le dossier transport ce soir ?
Oui.
Franchement, il faut le dire, c'était grotesque. De vouloir en 24 heures pour un dossier qui avait un an d'existence et de travail technique très très approfondi, de décider d'une route qui traverserait Bruxelles, dont on devait, je me souviens, on a appelé d'ailleurs un haut fonctionnaire de l'aviation civile qui était dans sa voiture et qui devait répondre depuis sa voiture si la route était bonne ou pas bonne. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi de plier à ce genre d'exigence et ça démontrait à quel point il fallait à tout prix montrer qu'on avait gagné du côté des partenaires flamands et qu'on qu'on avait choisi qu'une route traverse Bruxelles. Absolument. C'était donc tout à fait symbolique et pas seulement, je dirais, technique. C'est-à-dire qu'on ne parvient pas à travailler ce dossier de façon sereine et sérieuse avec les données, les informations. Enfin, la route du canal, on connaît l'ampleur d'un avion. Comment on pouvait croire qu'en étant au-dessus du canal, le canal qui a, je sais pas, sa largeur, mais enfin, c'est 40 mètres maximum, comment est-ce qu'on pouvait imaginer que tout d'un coup, tous les gens qui habitaient à droite et à gauche du canal allaient ne pas être impactés? C'est absolument ridicule.
Approximation, précipitation, voire même amateurisme, ce sont des termes que plusieurs de mes interlocuteurs utilisent pour qualifier la gestion politique du survol de Bruxelles.
L'erreur de Melchior Wattley, je pense qu'elle tient à la fois à de la naïveté et à une forme d'obstination dans l'erreur.
Antoine Wilhelmi, fervent opposant au plan Wattley via son association de riverains, pas question.
Melchior Wattley n'avait pas imaginé ce plan. Il l'a mis en place et il a cru bien faire. Il avait son conseiller en aéronautique qui lui disait que c'était un bon plan, etc. Il avait certains mandataires politiques, CDH de l'Est de Bruxelles, qui le poussaient à mettre ce plan en œuvre puisque ça soulageait leur région. Donc je crois qu'il a fait preuve un peu de naïveté. Il n'est pas rentré dans le dossier, il s'est laissé influencer. Et puis surtout, obstination dans l'erreur. À partir du moment où pas question s'est mis en place avec une mobilisation très forte, il n'a pas compris l'ampleur de la contestation bruxelloise. On m'a répété que même au dernier moment de la crise, quelques jours avant les élections, au comité politique du CDH, je disais on ne va pas se laisser emmerder par 10 000 Bruxellois. Bien la réalité, c'est qu'il y avait plus que 10 000 Bruxellois, il y avait toute une ville qui était mobilisée.
Autre témoignage précieux, celui de Laurent Ledoux. De 2013 à 2016, en tant que président du SPF Mobilité, chef de l'administration donc, il a suivi de près les péripéties liées au plan Wattley, avant de travailler sous les ordres de Catherine Fonck et Jacqueline Galland.
Souvent, j'ai constaté que du côté politique francophone, on se faisait un peu manipuler par certains technocrates flamands qui n'étaient pas aussi, indépendants que ceux-là du pouvoir politique flamand.
Les trois ministres que vous avez connus, ils connaissaient bien le dossier ou pas ?
Ils le connaissaient, mais en partie, et je pense qu'ils ne le maîtrisaient pas bien, et qu'ils étaient influencés par des personnes qui, eux, avaient souvent un agenda particulier.
Les mots utilisés sont forts, mais ils rejoignent ceux de Frédéric Dobrousquez, professeur de géographie des transports à l'ULB et expert du survol de Bruxelles.
Donc ce sont des dossiers qui sont sensibles humainement et politiquement, mais qui sont en même temps à contenu technique assez élevé. Cela permet à une minorité de personnes qui comprennent ce qui se passe de manipuler les autres. Et ça, on le voit assez bien en lisant les PV des réunions intercabinets, ça transparaît assez bien. Il y a une ou deux personnes qui maîtrisent le dossier et les autres font oui, quoi. Ou sont mandatés par leur ministre pour défendre tel ou tel espace pour des raisons strictement électoralistes, mais sans compréhension générale du dossier. On voit bien, ça j'ai pu le constater plusieurs fois, que on vient en fait avec ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, hein, donc on tord la réalité pour parvenir à ses fins, ou après coup, quand il y a scandale, pour justifier les décisions qu'on a prises, quoi. Et donc par exemple, le courrier de Melchior Wattley qui répond aux riverains en disant « j'ai pris des mesures qui minimisent le nombre de personnes survolées », alors que selon toute évidence, il a envoyé plus d'avions sur les quartiers denses de la ville. Ça c'est un exemple de fake news pour justifier des mauvaises décisions qui sont prises.
Mais soyons de bon compte, le dramatique surplace dans le dossier du survol n'est pas qu'à faire de mauvaise gestion. Si cette problématique pourrit la vie politique belge depuis si longtemps, c'est avant tout parce qu'elle est d'une rare complexité. Je reprends l'équation. Un aéroport privé situé en Flandre, dont il est un moteur économique, mais à un jet de pierre de Bruxelles, pour qui l'aéroport est surtout synonyme de nuisance. Bref, tous les ingrédients d'un bon gros conflit communautaire. Communautaire, mais pas seulement, selon le professeur Dobrousquez.
Il est très clair que la protestation contre les nuisances aériennes, elle émane essentiellement des quartiers favorisés, et je dirais même des quartiers favorisés de la périphérie. Alors la périphérie est en Flandre, certes, mais il y a une bonne partie de la périphérie qui est à majorité francophone, il suffit de voir l'origine linguistique des bourgmestres dans certaines communes, donc c'est pas parce qu'on est en périphérie qu'on est à majorité flamande. Et donc, pour moi, le conflit, c'est en bonne partie une population favorisée qui habite des villas à quatre façades en périphérie contre les habitants de la ville et en particulier des quartiers centraux de la ville qui sont populaires et largement immigrés et qui n'ont pas les moyens de se défendre, d'organiser une contestation, de produire un discours qui va être audible par le pouvoir politique qui prend les décisions sur les procédures aériennes.
Un conflit social donc qui se surajoute à la couche bien connue, celle-là, du casse-tête communautaire. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Sous les avions Bruxelles, un podcast La Première réalisé par Jérôme Durand et Nicolas Van de Weyer avec les archives de la Sonuma. Dans le dernier épisode, place à l'avenir. Faut-il redéfinir les routes aériennes ou miser sur la technologie pour sortir par le haut dans ce dossier? Je vous présenterai les pistes de solutions envisagées. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et si vous voulez découvrir l'offre podcast de La Première, rendez-vous sur lapremiere.be.